Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de préparer une émission et d'avoir eu envie de la partager.
À toi, Adam, avec les secrets des professeurs.
Avant d'écouter Adam, c'est Sébastien de Radio Campus Tours. On est toujours au forum du Collège Jules Romain. Avant d'écouter Adam, peut-être quand même remercier tous les élèves qui sont présents avec moi autour de cette table, les élèves du Club Radio du Collège Jules Romain, sur le 97.4, sur la radio éphémère. Un énorme travail. Moi, je vous remercie en tout cas parce que vous avez passé depuis ce matin 8 heures. On est dans la même salle, on est dans le studio, on fait un... Vous avez fait un travail énorme avec tous vos professeurs, qu'on remercie aussi, particulièrement Mme Saint-Aurent, Mme Andry aussi, et puis Mme Garrado, la principale, pour ce projet. Est-ce que, avant de passer à la suite, on a été quasiment là toute la journée, on a vu tous les programmes se faire sous nos yeux et surtout dans nos oreilles. Est-ce qu'il y a des temps forts aujourd'hui, des émissions que vous avez aimées, des choses que vous avez retenues? Moi, il y a plein de choses que j'ai apprises aujourd'hui, en tout cas. Les filles, les garçons autour de la table, est-ce qu'il y a un moment que vous avez bien apprécié dans cette journée?
Moi, j'ai beaucoup apprécié tout, parce que c'est la première fois que j'anime toute une journée, toute une après-midi en tout cas.
Oui. Est-ce que ça te paraît du coup insurmontable en termes d'organisation? Qu'est-ce que tu en penses?
C'est pas insurmontable, mais il doit y avoir beaucoup de préparation.
Ouais. Donc malheureusement, cette année, on ne peut pas recevoir de public. Donc les gens qui nous écoutent à l'extérieur, peut-être ils n'imaginent pas exactement comment c'est fait. En tout cas, il y aura des photos qui seront mises sur le site internet du Collège Jules Romain. Donc tous ceux qui écoutent, on vous invite à aller voir le site internet du Collège pour déjà réécouter les podcasts, puisque il y a un professeur qui le soir se donne beaucoup de mal pour mettre tout ça en ligne. Et puis et ben, prochainement, il y aura les photos qui seront disponibles pour que ceux qui n'ont pas pu venir voir puissent voir le studio dans lequel vous avez exercé vos talents toute la journée. Moi, je vais me permettre de dire, il y a des petites choses que j'ai apprises. J'ai bien aimé aujourd'hui la lecture et les jeux de rôle qu'ont interprété les élèves latinistes de M. Houdin. J'ai appris plein de choses sur l'école à l'époque romaine. Et à l'époque romaine, il n'y avait pas d'atelier radio dans les écoles, déjà parce qu'il n'y avait pas de radio et les enseignants n'avaient pas tout à fait la même pédagogie. Donc on a bien de la chance au mois de juin là, d'être ici au Collège Jules Romain avec tous ces bels outils. Ben, je ne vais pas monopoliser l'antenne plus longtemps. Vous avez un camarade qui a enregistré une petite chronique qu'on va écouter tout de suite, qui s'appelle Adam. Et donc, on va écouter ça tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Adam. Voici des enregistrements de professeurs qui vont nous parler de leur adolescence au collège. Bonjour, nous allons interviewer
Madame Rieder.
Comment était votre scolarité au collège?
Alors, quand j'étais au collège, c'est sans doute mes plus belles années dans l'enfance. J'étais une élève qui aimait bien être en cours, qui aimait bien voir les amis au collège. Et même si faire les devoirs, c'était moins plaisant, je les faisais quand même tout le temps.
Quel ado étiez-vous?
J'étais une ado qui aimait faire du sport, faire du vélo, voir les amis et avoir des bonnes notes à l'école.
Quel comportement aviez-vous?
Quel comportement, c'est-à-dire?
C'est-à-dire si vous étiez du genre un peu drôle, pas trop genre un peu timide ou souvent interpellé par les professeurs?
Alors non, je faisais pas le bazar en cours, ça c'est sûr, j'aimais bien être en cours, j'avais beaucoup d'amis. Par contre, c'est vrai que j'étais un peu timide, mais quand je connaissais bien mes amis, il n'y avait pas de réserve. En classe, j'aimais bien participer à l'oral aussi.
Est-ce que vos professeurs étaient sévères?
Est-ce que mes professeurs étaient sévères? Ah bah, ils pouvaient se fâcher fort, hein, ça c'est sûr, mais pas plus qu'aujourd'hui, pas moins qu'aujourd'hui, je dirais.
Est-ce que vous vous souvenez d'un de vos professeurs en particulier?
Dans mes années collège?
Oui.
Oui. Dans mes années collège, je me souviens bien de mes professeurs d'EPS, Madame Saillé, Monsieur Courtet par exemple. Je me souviens bien aussi d'un professeur d'histoire géo qui m'a marqué, Monsieur Ledouigou, Madame Simon en français, Monsieur Lemoile en maths et en physique. Je m'en souviens bien de mes professeurs, ils m'ont beaucoup marqué, oui.
Est-ce que vous avez été collé ou puni?
J'ai jamais eu de colle, des punitions, oui, pour bavardage.
Quelles punitions vous étiez donné?
La punition, c'était ramasser les papiers dans la cour, ou alors aider les surveillants à ramasser les petits papiers d'absence, parce qu'on n'avait pas d'ordinateur dans les salles. Hein. Donc ramasser les petits papiers des élèves absents, donner le nombre de personnes qui mangent à la cantine, c'était des choses comme ça. Et puis des lignes à copier, sinon je ne dois pas bavarder en classe 200 fois.
Quelle note avez-vous eue pendant votre scolarité ?
Quelle note ?
Oui.
Oh bah je sais plus trop, mais j'avais entre 15 et 17.
Quel genre de musique écoutiez-vous à cette époque ?
J'aimais bien écouter. Il y avait de la dance, il y avait de la variété française. J'écoutais aussi Madonna. J'écoutais des groupes de métal, les débuts du rap avec MC Solar. Enfin, c'était assez varié. Ce qui passait à la radio à l'époque, en fait.
Quel sport faisiez-vous ?
Je faisais de la danse.
Que regardiez-vous à la télé ?
Je regardais des séries comme aujourd'hui, hein, qu'on avait après l'école. Je regardais Seconde B, je regardais Hartley, Cœur à vif, Beverly Hills aussi le week-end.
Est-ce que vous aviez été resté en contact avec
un ou pas ? Oui, je suis restée en contact avec un professeur de français assez longtemps après, pendant mes années lycée et un peu mes années de fac aussi. Et puis avec ma maîtresse de CM2, je suis restée longtemps en contact.
Comment vous veniez au collège avant ? En vélo, en trottinette, à pied ou en voiture ?
J'allais à pied au collège. Je pouvais prendre le bus, mais au bout d'un moment, finalement, il y avait un quart d'heure à pied. Je venais à pied.
À quel jeu jouiez-vous avant dans la cour ?
Alors, sur la cour, on avait Alors, c'était d'abord le ping-pong. On faisait des tournantes sur la table de ping-pong. Et puis, on avait aussi des balles de tennis. Et contre le mur du préau, on avait le droit de se taper dans la balle avec un rebond. Fallait qu'elle tape sur le mur. Et c'était le suivant, ensuite, qui rattrapait la balle de tennis. On faisait ça entre midi et deux, tout le temps.
Est-ce qu'il y avait des clubs avant ? Comme aujourd'hui, le club radio.
Ouais, il y avait un club, moi je faisais partie par exemple d'un club vidéo, il y avait déjà les clubs jeux de société, les clubs, on appelait ça les clubs devoirs, pour ceux qui voulaient faire leurs devoirs, ça existait, oui.
Est-ce que vous vouliez devenir professeur ?
Oui, d'abord professeur des écoles, et puis finalement, en grandissant, je me suis dit pourquoi pas au collège, donc fallait que je choisisse une discipline, et le français s'est présenté à moi, voilà, parce que j'aimais bien lire, parce que j'aimais bien ça, mais ça aurait peut-être pu être l'anglais, ça aurait peut-être pu être l'histoire géo aussi.
Merci de vos réponses. Bonjour, nous allons interviewer
Madame Perry.
Comment était votre scolarité au collège ?
Alors j'étais plutôt bonne élève.
Quel ado étiez-vous ?
J'étais une ado un peu rebelle.
Quel comportement aviez-vous ?
J'étais légèrement insolente avec mes professeurs et mes parents.
Comment était votre comportement en classe ?
En classe, je travaillais bien, mais j'étais peut-être un peu pénible avec certains professeurs.
Est-ce que vos professeurs étaient sévères ?
Non, je ne les ai pas trouvés particulièrement sévères, plutôt justes.
Est-ce que vous vous souvenez d'un de vos professeurs en particulier ?
Oui, mon professeur de français en quatrième en particulier.
Est-ce que vous avez été collé ou puni ?
J'ai été collée et punie, mais plutôt au lycée, pas au collège.
Quelle punition ?
Je ne me rappelle plus les punitions, mais j'ai été collée, donc en retenue, au lycée.
Quelle note avez-vous eue ?
J'avais plutôt des bonnes notes, ça dépendait des matières, mais plutôt des très bonnes notes en français et en langue.
Quel genre de musique écoutiez-vous ?
J'écoutais J'écoutais du rap, il me semble.
Quel sport faisiez-vous ?
Je faisais de l'athlétisme.
Que regardiez-vous à la télévision ?
Je regardais surtout des clips musicaux.
Est-ce que vous êtes resté en contact avec un ou une prof après ?
Non, mais j'aimerais bien retrouver mon professeur de français de quatrième.
Comment vous veniez au collège avant ? En vélo, en trottinette, à pied ou en voiture ?
Rien de tout ça, je venais en transport scolaire.
À quel jeu jouez-vous avant dans la cour ?
Je jouais avec mes copines. Alors je jouais pas beaucoup, mais je discutais beaucoup. On avait plein de secrets à se raconter avec mes copines.
Est-ce qu'il y avait des clubs avant, comme le club radio ?
Oui, il y avait le club théâtre et le club BD.
Est-ce que vous vouliez devenir professeur ?
J'ai voulu devenir professeur quand j'étais en seconde, donc au lycée.
Merci de vos réponses.
Merci.
Bonjour, nous allons interviewer
Madame Burry.
Comment était votre scolarité au collège ?
Elle était plutôt tranquille et elle s'est bien passée.
Quel ado étiez-vous ?
J'étais très sage à l'école et très pénible à la maison.
Quel comportement aviez-vous ?
Alors à la maison, je bougeais beaucoup, j'étais très pénible et j'aimais bouger tout le temps.
Comment était votre comportement en classe ?
En classe, j'étais très sage. Mes profs, ils considéraient que j'étais une élève modèle.
Est-ce que vos professeurs étaient sévères ?
Ça dépend lesquels. Il y en a qui étaient très sévères et d'autres qui étaient plutôt cool et avec qui on en profitait un peu.
Est-ce que vous vous souvenez d'un de vos professeurs en particulier ?
Oui, un prof de maths en particulier. Je m'en souviens parce que c'est lui qui m'avait donné des conseils devant l'échec.
Est-ce que vous avez été collé ou puni ?
Oui, ça m'est arrivé.
Quelle punition vous était donnée ?
Alors on avait de la conjugaison, de la copie, beaucoup, beaucoup de copies, copier 50 fois la phrase bla bla bla, voilà.
Quelles notes avez-vous eues ?
J'avais des bonnes notes, j'étais une bonne élève, j'étais aux alentours de 15-16 sur 20.
Quel genre de musique écoutiez-vous ?
J'écoutais beaucoup de variétés françaises.
Quel sport faisiez-vous ?
Du basket, beaucoup de basket.
Que regardiez-vous à la télévision ?
Alors ça va peut-être vous surprendre, mais on n'avait pas la télé à la maison quand j'étais au collège.
Est-ce que vous étiez resté en contact avec un ou une prof ?
Non, j'ai pas gardé de contact avec mes anciens profs.
Comment vous veniez au collège ? En vélo, en trottinette, à pied ou en voiture ?
Je venais en bus, il y avait un ramassage scolaire, j'habitais à 12 km de mon collège.
À quel jeu jouez-vous avant dans la cour ?
On jouait pas tellement, on circulait beaucoup en discutant, mais on faisait pas vraiment de jeu dans la cour.
Est-ce qu'il y avait des clubs avant, comme le club radio ?
Alors, il y avait des clubs, il n'y avait pas de club radio, mais oui, il y avait des clubs dans l'établissement.
Est-ce que vous vouliez devenir un professeur ?
Depuis la quatrième, oui, mais au départ, j'étais partie sur prof d'allemand. Et j'ai radicalement changé puisque je suis prof de maths.
Merci de vos réponses. Merci à tous les professeurs qui ont répondu à mes questions. Je vous souhaite une bonne journée sur Radio FMR.
Merci Adam et merci aux professeurs d'avoir accepté Merci Adam et merci aux professeurs d'avoir accepté de jouer le jeu comme on dit. Sans plus tarder, écoutons Elisa, Marie et Léonie sur les catastrophes naturelles.
Bonjour, je suis Elisa. Avec Léonie et Marie, nous allons vous parler des catastrophes naturelles.
Pour commencer, savez-vous ce qu'est une catastrophe naturelle ?
Une catastrophe naturelle est un phénomène plus ou moins dangereux pour l'homme produit par la nature. Vous entendrez peut-être aussi parler des cataclysmes. Voici quelques exemples de catastrophes naturelles. Un séisme, une inondation, une tornade, un ouragan, un incendie, un tsunami, une avalanche, un éboulement de terrain, une éruption volcanique. Le changement climatique est le principal responsable du doublement des catastrophes naturelles en 20 ans.
Tu as parlé d'un tsunami, mais qu'est-ce qu'un tsunami ?
Un tsunami est aussi appelé raz-de-marée. Ce mot signifie vague de port en japonais. C'est une énorme vague dangereuse et dévastatrice provoquée par un séisme, un glissement de terrain sous-marin ou une éruption volcanique. La majorité des tsunamis se produisent dans l'océan Pacifique.
À combien de kilomètres-heure vont ces vagues ?
En se rapprochant de la plage, ces énormes vagues peuvent circuler à des vitesses supérieures à 700 km/h et peuvent dépasser 30 mètres de haut près des côtes, alors qu'elles ne mesurent qu'un mètre en pleine mer. Cela explique le fait que, bien souvent, les pêcheurs ne ressentent pas en pleine mer les vagues qui passent sous leur bateau, mais découvrent, au retour, leur port dévasté.
Saviez-vous qu'en 1968, un réseau d'alerte internationale au tsunami a été créé pour prévenir la population concernée et organiser leur évacuation ?
Oui, il est situé à Hawaï. C'est une région du globe particulièrement touchée par les tsunamis, car elle est placée au centre de la ceinture de feu du Pacifique.
C'est quoi la ceinture de feu du Pacifique ?
C'est une région peuplée d'énormément de volcans alignés au bord de l'océan Pacifique. Elle s'étire sur 40 000 km. Ces volcans en éruption provoquent des séismes dans l'océan Pacifique, qui eux-mêmes provoquent des tsunamis.
Revenons au réseau d'alerte international au tsunami. Combien de pays participent ?
Il implique 28 pays du Pacifique et fonctionne avec des réseaux de stations d'observation sismologique, des bouées et des capteurs de pression sous-marins. Les données recueillies sont transmises par des satellites aux stations. La station d'observation sismologique, c'est une station qui étudie les tremblements de terre.
Comment ça marche après que les données ont été transmises aux satellites ?
Dès qu'un séisme est enregistré, des scientifiques analysent les données avec des modèles et déterminent s'il existe un risque de tsunami. Dans l'affirmative, l'alerte est immédiatement relayée vers des centres nationaux, qui la diffusent selon leurs propres moyens. Au Japon, des haut-parleurs géants sont installés sur les côtes.
Savez-vous s'il y a des risques de tsunami en Méditerranée ?
Oui, des risques de tsunami existent aussi en Méditerranée. particulièrement dans sa partie orientale, où on trouve des pays tels que la Grèce, la Turquie, Chypre, la Syrie, le Liban, Israël ou l'Égypte. La Méditerranée étant une mer étroite, les vagues arriveraient donc sur les côtes très rapidement, en une heure maximum.
Quel est le plus grand tsunami qui s'est produit ?
Le 11 mars 2011, le Japon est frappé par un séisme d'une magnitude 9, entraînant un tsunami qui rase les villes le long des côtes nord-est du pays. 19 000 personnes périssent ou disparaissent. L'eau inonde la centrale nucléaire de Fukushima, endommage les réacteurs dans ce qui constitue le pire accident nucléaire depuis celui de la centrale soviétique de Tchernobyl en 1986.
Quels sont les pays les plus touchés par les tsunamis ?
Les pays les plus touchés sont l'Indonésie, le Sri Lanka, la Thaïlande et l'Inde.
Pour terminer, voici quelques informations à retenir à propos des tsunamis.
Les tsunamis ont une cause géologique. Ils ont lieu sur les côtes où ils causent des destructions majeures.
L'océan Pacifique est la région la plus exposée, mais tous les bassins océaniques et maritimes peuvent être touchés. Cependant, les messages d'alerte sont efficaces et permettent de sauver des vies.
Après une petite pause musicale, nous revenons pour une autre catastrophe naturelle.
Dans le jardin de mon père, il y a un cerisier mal fichu. Il est comme ça depuis la guerre, le corps plié par un obus. À le voir tordu de la sorte, je m'imagine qu'il doit souffrir et qu'au bout de ses branches mortes, plus rien ne pourra refleurir. Et qu'au bout de ses branches mortes, plus rien ne pourra refleurir. Mais dès que le printemps rappelle le ciel, l'herbe et les perles d'eau, la mécanique universelle l'amène à fleurir de nouveau. Bientôt, dans le vert des feuillages, apparaissent les fruits vermeils qui nous poussent aux enfantillages et que j'accroche à ton oreille, qui nous poussent aux enfantillages et que j'accroche à ton oreille. Merles, pigeons et tourterelles s'accaparent les branches du haut. Et toi, tu montes à l'escabelle, picoré avec les moineaux. Quand ton sourire qui m'attise m'invite à regarder dessous, il est doux le temps des cerises et sa douceur me rend fou. Il est doux le temps des cerises et sa douceur me rendra fou. Dans le jardin de mon père, il y a un cerisier mal fichu. Il est comme ça depuis la guerre, j'espère ne jamais voir d'obus.
Vous êtes toujours sur Radio Éphémère, moi Léonie, je suis toujours accompagnée de Marie et Elisa, et nous allons maintenant vous parler d'une autre catastrophe naturelle, les tornades.
Qu'est-ce qu'une tornade ?
Une tornade est un tourbillon de vent extrêmement violent, se développant sous la base d'un nuage d'orage, que l'on appelle un cumulonimbus. Ce tourbillon de vent se prolonge jusqu'à la surface terrestre.
Quelles sont les conséquences du passage de ce tourbillon sur la Terre ?
Quand la tornade balaye la Terre ferme, elle soulève sur son passage toutes les sortes d'éléments solides ou liquides qu'elle entraîne à sa base. Mais on ne parle de tornade que si le tourbillon d'air entre en contact avec la Terre ferme.
Et si l'air ne touche pas le sol, comment appelle-t-on cela ?
On parle simplement d'un entonnoir nuageux.
Et si le tourbillon d'air entre en contact avec l'eau ?
On parle alors de trombe marine.
Sais-tu où se forment les tornades ?
Les tornades se produisent dans de nombreuses régions du monde. Elles sont plus nombreuses dans certaines zones ou climats humides, avec des températures entre 0 et 30 degrés.
Savez-vous que certaines tornades ont été retenues par l'histoire ?
Par exemple, Grégoire de Tours décrit un événement survenu dans la vallée de la Loire au VIe siècle qui semble correspondre au phénomène. Voici ce qu'il dit. Le vent du midi souffla sur le pays avec tant de violence qu'il renversa les forêts, abattit les maisons, arracha les haies et fit périr des hommes même enlevés dans un tourbillon. On n'a pu savoir ni estimer jusqu'où s'était prolongé son passage.
Quel est le pays le plus touché par les tornades ?
Les États-Unis subissent le plus grand nombre de tornades et elles ont tendance à y avoir une très forte intensité. De 800 à 1300 tornades sont observées chaque année dans ce pays.
Quand y a-t-il le plus de tornades ?
Une tornade peut survenir à tout moment, mais elles sont plus fréquentes à la fin du printemps et en été. Par exemple, aux États-Unis, 54% des tornades ont lieu au printemps et 27% en été.
Quelle est la plus forte tornade de l'histoire ?
La plus forte tornade rapportée dans l'histoire s'est produite aux États-Unis le 18 mars 1925. Elle a parcouru 325 km en traversant les États du Missouri, de l'Illinois, de Indiana. Elle a duré 3h30. Il s'agit de la plus meurtrière aux États-Unis, avec 695 morts. Elle est encore la troisième plus coûteuse de ce pays. J'espère que vous en savez un peu plus sur les tornades. Nous voudrions vous parler d'une troisième catastrophe naturelle. Et ce sera juste après la pause musicale. Restez sur Radio Éphémère.
Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world, come to the, come to the world, and baby, let me show you things. 'Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. 'Cause we've got time, yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day, for us to show some courage. So don't go if you wanna know. Don't go if you don't know. Don't go.
like I'm on a river flow. Cause we've got time, and yes, we've got time. Beautiful stranger, I wanna lose my mind. Beautiful stranger, in the depth of your arms. Beautiful stranger.
De retour sur Radio Éphémère. Vous écoutez toujours l'émission à propos des catastrophes naturelles. Après le tsunami évoqué par Elisa et les tornades de Léonie, moi, Marie, je vais vous parler des séismes.
Mais qu'est-ce qu'un séisme ?
C'est un tremblement de terre. La science qui étudie ce phénomène est la sismologie, pratiquée par les sismologues. Et l'instrument de mesure principal est le sismographe.
Qu'est-ce qui peut produire un séisme ?
Il y a trois causes au séisme. Premièrement, il existe les séismes tectoniques. C'est quand il y a un mouvement brusque de la croûte terrestre, produit à une certaine profondeur, à partir d'un épicentre. L'épicentre, c'est le point où la faille d'un séisme se forme. La deuxième cause d'un séisme peut être l'activité volcanique. Les séismes d'origine volcanique résultent de l'accumulation de magma dans la chambre magmatique d'un volcan.
Et la troisième cause, c'est quoi ?
Il existe aussi des séismes polaires. Les glaciers et la couche de glace présentent une certaine élasticité, mais les coulées de glace provoquent des cassures dont les ondes élastiques génèrent des tremblements de terre, enregistrés par des sismographes loin du pôle à travers le monde.
D'accord, mais est-ce qu'un séisme, c'est dangereux ?
Alors oui, ça peut être très dangereux et ça peut avoir des effets dévastateurs, comme des éboulements de terrain, des villes détruites et même des tsunamis. Comme nous le disait tout à l'heure Elisa, un séisme peut aussi laisser de très grandes failles, comme celle de San Andreas en Californie, qui s'étire sur 1287 km de long et 140 km de large.
Comment on sait qu'un séisme se prépare ?
On ne peut pas prévoir l'arrivée d'une secousse, mais parfois une secousse est précédée de signes annonciateurs. Ça peut être un bruit sourd lié aux vibrations de la Terre, imperceptible pour certaines personnes, ou un comportement inhabituel d'animaux sensibles aux vibrations.
On ne peut pas prévoir les secousses, mais est-ce qu'on peut les localiser ?
Pas tellement non plus. La majorité des séismes se produisent à la limite entre les plaques tectoniques de la Terre, mais il peut aussi y avoir des séismes à l'intérieur des plaques.
Quels ont été les plus grands séismes ?
Le plus grand séisme a été enregistré à Valdivia, au Chili, le 22 mai 1960. Il était d'une magnitude de 9,5. Le deuxième plus grand était enregistré dans l'océan Indien, près de l'île de Sumatra, en Indonésie, le 26 décembre 2004. Sa magnitude était de 9,3. Le troisième plus grand était enregistré le 27 mars 1964 en Alaska. Sa magnitude était de 9,2. Ces séismes ont causé énormément de dégâts.
Ça veut dire quoi, une magnitude de 9,5, 9,3 ou 9,2 ?
Alors, on mesure l'énergie totale d'un séisme en calculant sa magnitude. La magnitude est mesurée à partir de l'échelle de Richter. Par exemple, si un séisme est au-dessus de 9 sur l'échelle de Richter, il peut tout détruire sur une très vaste zone. Mais si un séisme ne dépasse pas 1,9 sur l'échelle de Richter, il est impossible à ressentir pour les humains.
Est-ce qu'on peut se protéger des séismes ?
Oui, par exemple au Japon, la structure en bois des maisons ne résiste pas au feu, mais malgré leurs toits lourds et imposants, elles résistent très bien aux tremblements de terre et aux typhons très présents dans cette région du monde. Et quand ils sont jeunes, les enfants apprennent à se protéger des séismes dans leur école, notamment en se cachant sous leur table.
Voilà, nous espérons que vous en savez maintenant plus sur les catastrophes naturelles.
Nous vous rappelons que si elles sont de plus en plus nombreuses, c'est notamment à cause du réchauffement climatique.
Donc, si nous voulons les éviter, il faut protéger notre belle planète.
Restez avec nous sur Radio Éphémère.
Merci beaucoup les filles d'avoir abordé ce sujet très important pour sensibiliser nos auditeurs au réchauffement climatique. Chacun peut agir à son niveau et nous aidons évidemment la plus forte implication de nos dirigeants politiques. Notre futur en dépend.
Chers auditeurs, avant de nous quitter jusqu'à demain, nous tenons à vous remercier d'être restés en notre compagnie. Merci à tous les professeurs pour avoir proposé et organisé ces belles émissions. Merci aussi aux élèves. Merci à Sébastien de Radio Campus, à la régie pour son aide et son accompagnement.
Nous invitons nos auditrices et nos auditeurs à poursuivre leur écoute demain matin dès 8h. En attendant, vous pouvez réécouter les émissions en podcast sur le site du collège. Bonne soirée à vous tous et à demain.
On compte sur vous.
Encore des hommes, des femmes absents. Hésite, avance encore plus loin, plus loin, plus loin.